président fondateur, eh ben, ce n'est pas le Premier ministre ni le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Ce n'est pas non plus tel ministre d'État ou tel général de l'armée. Non, c'est le conseiller spécial, le métier le plus difficile du Gondwana. Et assurément aussi, sans coup férir, le job le plus dangereux du pays. Car, comme dit la sagesse gondwanaise, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais quand ils énervent président fondateur, ben, ils le payent toujours très cher et cash. À lundi.
Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Je vous propose un voyage en Tunisie, au cœur de l'écosystème entrepreneurial. Malgré les freins, malgré les difficultés, des hommes et des femmes tentent de développer une économie basée sur les atouts de ce pays, ouverte sur le monde, grâce à la technologie et respectueuse des enjeux climatiques.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI.
Radio Foot International, le foot des cinq continents.
C'est intéressant de les voir arriver et arriver un peu tout feu tout flamme.
Pour l'instant, c'est tout froid.
Le Sénégal a des joueurs capables de mettre la Norvège à terre.
Radio Foot International.
Ce ne sont pas les Lions du Sénégal qui auront peur de ceci et cela.
Du lundi au vendredi à 16h10 et 21h10 TU sur RFI. Ce jeudi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
Les Italiens doivent se prononcer par référendum sur la réforme de la justice. Giorgia Meloni ne cache pas son aversion pour les juges rouges, trop politisés, qui peuvent bloquer ces réformes migratoires. Mais l'opposition dénonce une menace sur la séparation des pouvoirs.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 17h10 TU sur RFI.
Écoutez ce vendredi sur RFI, Littérature sans frontières, avec Catherine Fruchon-Toussaint.
Le 5e prix littéraire Voix d'Afrique est officiellement annoncé ce vendredi 20 mars, l'occasion d'une émission spéciale en délocalisation à Kinshasa, à la rencontre de la lauréate ou du lauréat de ce concours du premier roman organisé par RFI et les éditions Lattès. Littérature.
C'est nous qui vous l'offrons ce matin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Pire Reste à Venir, la matinale des antennes de Principe Actif et d'HDR. Ce matin, on va vous parler de Trisomie 21. On aura l'occasion de recevoir l'association Trisomie 21 Normandie dans notre téléphone. On va pouvoir papoter durant toute cette matinale. On aura l'occasion de retrouver notre chroniqueur du futur Antoine, ainsi que ma camarade So, qui m'accompagnera durant cette émission. Du bon son, de la bonne humeur, des bons plans, de bonnes infos, vous l'avez compris, c'est la recette du pire reste à venir.
Il est l'or, l'or de se réveiller.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
De 8h à 9h.
De 8h à 9h.
8h à 9h. Sur HDR et Principe Actif.
Et pour parler de ce petit truc en plus, on vous l'avait dit, nous recevons au téléphone Nour Khalif, directrice de l'association Trisomie 21 Normandie. Bonjour Nour, comment allez-vous ?
Bonjour, ça va, je vous remercie.
Alors Nour, en quelques mots, qu'est-ce que l'association Trisomie 21 et puis quel va être ce jour du 21 mars qui est une journée mondiale ? En quelques mots. Alors,
le 21 mars, c'est la journée mondiale de la Trisomie 21. L'association Trisomie 21, donc, c'est une association qui porte vraiment les valeurs de l'inclusion et de l'autodétermination, qui intervient sur toute la chaîne maritime et une grande partie de l'heure. Et qui compte de nombreux services, aussi bien pour les enfants que pour les adultes.
Vous êtes présent sur le département de la Seine-Maritime et de l'Eure, si j'ai bien tout suivi.
C'est ça.
Avec plusieurs types d'accompagnement, de structures.
On a plusieurs CESAD, on a des services d'éducation et de soins à domicile qui sont en direction des enfants de 0 à 20 ans. Donc on accompagne aussi bien des enfants porteurs de trisomie, mais pas que, donc de tout handicap. Et on a deux spécificités qui sont la trisomie 21 et l'éducation précoce. On a aussi plusieurs EMAS, des équipes mobiles d'appui à la scolarisation et des PAS, des pôles d'appui à la scolarisation. On a aussi un ESAT Orlais-Mure à Darnétal, donc qui est vraiment tourné vers l'inclusion, un SAVS Sava à Bernay, et on gère le restaurant le 21, le restaurant inclusif à Rouen.
Et ça, bien entendu, nous aurons l'occasion d'en parler durant toute cette matinale. Rien que dans la présentation, en fait, vous nous donnez la matière de nos échanges. Merci Nour.
De rien.
Tout de suite, sans plus attendre, on part sur une toute première pause musicale et nous allons parler de l'association Trisomie 21 Normandie durant cette matinale.
Thank you.
and the Broken Bones avec le titre Sushi on Coca-Cola.
Le bien reste à venir. Le bien reste à venir. La matinale de Principe Actif et d'HDR. De 8h à 9h.
De 8h à 9h.
Nous sommes toujours avec Nour Khalif, directrice générale de l'association Trisomie 21 Normandie, avec qui nous allons échanger autour de l'association, bien entendu, de la Trisomie 21 également, et puis de toutes les actions qui seront proposées là prochainement. Et même de ce qui s'est passé un petit peu hier notamment. L'association Trisomie 21, vous l'avez présentée très rapidement en disant que vous travaillez sur l'inclusion et l'autodétermination, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on entend par ces questions d'inclusion et d'autodétermination quand on parle de Trisomie 21 ?
Alors, l'autodétermination, c'est vraiment la capacité, c'est de pouvoir décider en fait de sa vie, de ses choix, de ses orientations, de tout ce qui révèle et qui reflète un peu l'existant et pour lesquels nous, on se pose pas forcément de questions. Mais là, c'est vraiment important d'être dans cette dynamique-là. Et l'inclusion, c'est vraiment l'inclusion dans la société, comme tout à chacun, avec des moyens d'adaptation qui permettent cette inclusion pleine et entière, aussi bien sur le versant professionnel, social, culturel, sportif, vraiment sur tous les pans de notre société.
Quels sont les freins spécifiques de la trisomie 21 quand on parle d'inclusion de manière générale? Quels sont les freins ou les problématiques?
Alors, la trisomie 21, c'est une anomalie, c'est une anomalie chromosomique où il y a forcément ce chromosome en plus qui peut entraîner des problématiques médicales multiples, mais aussi des problématiques de motricité, des déficiences des problématiques cardiaques. Donc, dans la société, une latence aussi d'exécution des gestes, des mouvements, de pas mal de choses. Donc, aujourd'hui, dans la société, l'inclusion pour les jeunes et les adultes porteurs de trisomie 21, elle va être dans l'outillage, dans l'adaptation aussi de nos outils du quotidien pour faire en sorte que un geste quotidien puisse être fait avec une adaptation. Donc je pense à des tout petits où la mise en place ne serait-ce que des chaussettes. Vous voyez, peut être difficile de par la gestuelle. Quand on est sur le versant professionnel, ça va être aussi l'adaptation des actions à mener qui peuvent être régies du coup sous différentes modalités pour être plus compréhensibles. Donc ça peut être vraiment une multitude de choses qu'on va venir adapter pour que le jeune ou l'adulte ou l'enfant puisse être intégré et inclus pleinement dans la société.
Quand on parle de ce symptôme de trisomie, je suis en train de peser mes mots parce que n'hésitez pas à me reprendre sur le vocabulaire parce qu'en fait le vocabulaire est essentiel dans comment on aborde la question. Hein, donc n'hésitez surtout pas à me reprendre sur le vocabulaire. Vous qui êtes professionnel, en avez un sûrement plus adapté que moi et c'est avec grand plaisir que je veux bien me faire corriger sur le vocabulaire. Mais quand on parle de trisomie 21, est-ce qu'on parle chaque individu le porte différemment, chaque individu le vit différemment, comme on pourrait l'aborder dans le neuroatypisme
Il y a différentes formes de trisomie 21 et suivant les formes, les symptômes ne vont pas être les mêmes. Donc il y a une multitude de formes et de ce fait forcément une multitude de syndromes et de symptômes. Donc pour certains, on va avoir des traits physiques très très marqués, pour d'autres un peu moins. Au niveau de je vous parlais des problématiques cardiaques, digestives, orales, orofaciales souvent, où les enfants sont quand même opérés peu de temps après la naissance. On fait le constat que, suivant la forme, la prévalence, on n'a pas du tout les mêmes typologies auprès des adultes et des jeunes accompagnés, quoi.
Quand on parle de trisomie 21, on parle, vous l'évoquiez, d'inclusion et d'autodétermination. L'autodétermination relève quand même d'avoir tous les éléments pour déterminer comment cette autodétermination a besoin d'être travaillée ou comment elle est travaillée, cette autodétermination qui oblige quand même à comprendre ou à appréhender tous les tenants et aboutissants pour pouvoir autodéterminer ses choix.
Alors oui, tout à fait, c'est tout l'objectif aussi et tout l'objet de notre travail, c'est permettre en tout cas la meilleure compréhension, la meilleure lecture de ce qui lui est proposé et accepter en tout cas d'accompagner, alors quand je dis accepter, c'est pas nous, mais forcément que la société puisse accepter finalement de s'adapter pour l'accompagnement et la prise de décision pleine et entière de la personne. On a souvent cette problématique, on rencontre notamment souvent cette problématique chez des jeunes adultes où on peut finalement avoir plus la décision du parent ou de la structure dans laquelle il se trouve que la sienne. Sur le champ de l'insertion professionnelle, nous on le rencontre aussi souvent, on va nous dire ah bah oui mais trisomie 21, peut-être que ouais, on va plutôt aller sur tel ou tel champ qui vont peut-être demander moins de compétences et on se rend compte que pas du tout, en fait ils sont tout à fait capables voilà, avec des outils d'adaptation de pouvoir aussi poursuivre leur rêve et parfois de faire des choix je dirais qui sont plus dans la compromission. Nous on avait une jeune fille qui voulait absolument être puéricultrice, donc là c'était, enfin voilà, au regard de ses possibilités, bah, c'était compliqué pour elle. Pour autant, elle a pu faire un CAP petite enfance.
Et pouvoir exercer ensuite professionnellement dans le milieu de la petite enfance.
Et oui. Voilà, elle travaille. Alors, nous, on l'a accompagnée il y a un certain temps. Aujourd'hui, bah, elle est en CDI. Et comme je vous expliquais, nous, on est sur un ESAT Orléans-Mure. Donc, on travaille que dans le droit commun. On n'a pas de chaîne de production. On n'est pas du tout dans une typologie d'ESAT, je dirais, plus ordinaire.
Alors, ESAT, ce sont des entreprises, entreprises de travail protégées et adaptées.
Alors, ça reste un établissement spécifique, mais pour autant, on va vraiment travailler avec le milieu ordinaire. Donc, on va travailler le projet de la personne. On va aller accompagner aussi le tuteur durant ces périodes de stage au sein des entreprises dans lesquelles elles vont faire des stages. Donc ça permet aussi d'outiller et d'apporter une réelle ressource auprès de ces professionnels-là qui accompagnent les jeunes adultes. Mais inversement, ça nous nourrit aussi puisque voilà, on est dans un partage d'expertise et suite à ça, l'objectif in fine, c'est que ça se traduit par un CDI. Donc aujourd'hui, au niveau de l'ESAT Orléans-Mure, on a quand même voilà, une proportion assez conséquente de CDI in fine. Et ça permet, alors on n'est pas sur des temps pleins par contre, voilà, parce qu'il reste une flexibilité qui est quand même assez importante, mais on est sur, voilà, sur un accompagnement de l'adulte de manière pleine et entière et pleinement inclus et autodéterminée, quoi.
Moi j'avais une petite question, c'était en quoi favoriser l'inclusion le plus tôt possible, est-ce que ça permet les réussites de ces parcours-là? Est-ce que plus l'environnement est incluant tôt, est-ce que plus il y a d'impact selon vous sur les parcours?
Alors selon moi oui, et là vous prêchez non convaincu, puisque comme je vous l'ai expliqué, l'association a vraiment cette spécificité d'accompagnement de l'éducation précoce, donc on parle des 0-6 ans, et on fait le constat, nous, que plus on accompagne tôt, plus on va venir aussi étayer, adapter l'environnement de l'enfant, et bah plus ça se passe mieux. Après, il y a aussi cette réalité-là où la personne trisomique a besoin d'un temps de latence. Souvent, c'est des jeunes enfants ou des adultes qui vont emmagasiner les choses. Voilà, on va leur expliquer. Et on a l'impression que ça avance pas. Et d'un seul coup, voilà, ça avance très très rapidement parce qu'on s'aperçoit que tout ce qui a été dit était bien présent, a bien été emmagasiné, mais est ressorti sur un temps plus long. Et pour les tout petits, pour répondre pleinement à votre question, nous, ça fait 3 ans là qu'on a mis en place une je dirais, un accompagnement un peu innovant, où on a recréé un groupe classe au sein de nos structures. Et avant la scolarisation, on accompagne l'enfant et sa famille. Et on va venir travailler avec les établissements scolaires en amont de la scolarisation. Pour tous les enfants qui ont été inclus dans le groupe, eh ben, on a une scolarisation qui se passe plutôt pas trop mal, où l'enseignante a les outils pour accompagner l'enfant très très tôt, donc pas forcément de difficultés pour adapter. Alors pour autant, un outil qui fonctionne bien aujourd'hui peut être re-questionné dans 4, 5, 6 mois parce que l'enfant évolue, parce que l'environnement évolue, il y a besoin de réadapter, mais on s'aperçoit que ça fonctionne bien et on a des enfants du coup qui arrivent à suivre une scolarité, je dirais, pleine et entière, et un vrai travail de partenariat engagé avec les familles et l'éducation nationale qui sont quand même des acteurs clés qui, pour ma part, je les salue parce qu'il y a énormément de travail de fait dans ce sens-là. Donc on voit bien que plus l'inclusion, plus le travail est mené très très tôt, et plus la réussite est quand même présente in fine. Et là, pour le coup, je n'engage que ma personne, mais je sais que l'association porte, et c'est pour ça aussi que je suis au sein de cette association-là, porte ses valeurs. On fait quand même le constat que plus les adaptations sont là, plus l'inclusion est tôt, et plus finalement, parce que c'est pas tant le jeune aussi qui va devoir s'adapter, là c'est vraiment aussi tout l'environnement, vous voyez, qui s'adapte. Donc plus l'environnement est adaptable, et plus ça se passe mieux, quoi.
Dans le cadre d'une scolarité, ça va être effectivement les enseignants, vous l'avez abordé, mais également les autres camarades de classe qui, je crois qu'il y avait eu des retours, alors je ne sais plus par quel biais, je fais du journalisme d'approximation là, mais je sais qu'il y a eu j'avais entendu parler de retours qui disaient intégrer dans des classes des enfants différents, finalement, apporte même aux enfants ordinaires une plus-value, même aux enfants ordinaires, une plus-value au sein de la classe. Vous avez, vous, ce genre de retour d'une, d'adaptation des autres élèves de la classe, et puis de deux, cette plus-value que j'avais lue quelque part.
Alors, pour le coup, moi, je vais être sur du... pas sûr forcément de l'approximatif, mais plus sur du terrain. Moi, je vais être jeter un pavé dans la mare, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, 30 ans, tout le monde était inclus. Ça posait pas de questions. Ça se passait correctement. Il n'y avait pas forcément de problèmes particuliers. Aujourd'hui, on fait le constat que, en tout cas, nous, sur le terrain, on fait le constat qu'on est quand même dans une dynamique où quand il y a un enfant qui présente une spécificité, qui est porteur de handicap, et quel que soit son handicap, il y a vraiment une forme de bienveillance des enfants à l'égard de cet enfant-là, si c'est expliqué, s'ils en comprennent le sens. Et nous, on fait ce constat-là, quand on vient expliquer, parce que de manière systématique, quand il y a un enfant qu'on accompagne et quand il y a besoin de venir étayer auprès des autres enfants en accord avec la famille, les familles et l'éducation nationale, on vient expliquer un peu comment l'enfant fonctionne, et finalement on va mettre des mots dans la meilleure, qui vont favoriser la meilleure lecture de l'enfant par les autres enfants. Donc il y a ce point-là, et ça crée vraiment de la paire aidance, et ça c'est des constats qu'on fait, des enfants qui vont devoir, de manière naturelle vont proposer leur aide, vont adapter, vont être aidants dans la manière de porter l'enfant au sein de la classe. Et la deuxième chose qu'on constate, c'est que souvent, les enseignants avec lesquels on travaille, pour qui il y a une particularité, une spécificité pour l'enfant, on va proposer des outils. Et souvent, en fait, l'enseignant déploie l'outil à l'ensemble de la classe. Et là, elle nous dit, ça a été super efficace pour tout le monde. Ça nous a aidé là où il y avait certaines fois certains freins pour certains enfants. Le fait de mettre en place cet outil, ça a permis aussi de débloquer et d'intervenir auprès des autres enfants. Donc oui, il y a vraiment un intérêt, je dirais, multiple, aussi bien pour l'enfant qui présente et qui est porteur de handicap que pour ses autres camarades de classe.
sur. Je voudrais qu'on revienne juste deux petites minutes. Enfin, peut-être pas deux petites minutes, on verra bien. Mais en tout cas, sur la question professionnelle qu'on a abordée tout à l'heure, on est passé rapidement à l'éducation et notamment la scolarisation. Moi, je voulais revenir sur le milieu professionnel et notamment à travers le restaurant Le 21 qui est sur Rouen, qui est porté également par l'association Trisomie 21 Normandie. C'est un restaurant ouvert au public, à tout le public, dont une partie des salariés sont porteurs d'une trisomie 21.
Tout à fait. C'était vraiment le souhait aussi, ça émane d'un cheminement et d'un souhait de l'association, puisque, comme je vous l'ai expliqué, en fait, tous les services sont inclusifs. On n'a pas de service dit fermé. On est vraiment orienté vers l'inclusion. Donc, ils ont commencé par les CESAD. Puis après, les actes est arrivé. Et après,
les CESAD, ce sont des lieux d'apprentissage. Je veux bien qu'on revienne sur les abréviations, parce que vous les maîtrisez,
le
mais
CESAD,
pas nous.
C'est vraiment, le CESAD, c'est un service d'éducation et de soins à domicile. On va intervenir sur plusieurs pans de la vie de l'enfant, dont les apprentissages scolaires, mais les apprentissages sociaux aussi, professionnels. Donc ça, c'est vraiment le CESAD sur les 0-20 ans. Donc on intervient de la maternelle au lycée. Et les actes, on est plus sur les 16, 18, beaucoup plus, où là on est sur le milieu professionnel, donc on intervient vraiment sur ce champ-là, et l'idée c'est de construire un projet professionnel, de venir aussi et de permettre la montée en compétences de l'adulte accompagné, et d'affiner son projet, et on est vraiment sur le milieu ordinaire. Donc on va travailler aussi bien dans de la bureautique que dans du ménage, dans de la restauration. Il y a eu aussi du secrétariat, parce que voilà, il y a des personnes qui peuvent aussi être porteuses d'un handicap, mais ne pas présenter de déficience. Hein. Et donc c'est tous ces champs-là qu'on va venir travailler. Donc on a démarré par les CESAD, puis les AT. Il y a eu la SAVS sur le versant A plus social. Et donc, de manière plus ou moins naturelle, s'est posé la question de l'après aussi. Et donc, est né le restaurant Le 21.
Et donc le 21, un restaurant qui fait du fait maison, inclusif, mais qui fait du fait maison, qui est ouvert au public.
Qui travaille en circuit court, et ça c'est important de le notifier. Les seules personnes, qui ne présentent pas de handicap, donc c'est le chef et la responsable de salle, et une chargée d'insertion. Donc ils sont trois. Et tous les autres salariés sont des personnes en situation de handicap. Donc on a des jeunes adultes porteurs de trisomie qui travaillent soit en cuisine, soit en salle. Et donc c'est ouvert à tout le monde. On y mange très très bien, donc je vous y invite volontiers. Et on est vraiment sur des circuits courts aussi. Et tout est fait sur place par les jeunes. Voilà. Donc on a des menus plus réduits, donc de ce fait on est sur une carte avec à chaque fois trois choix qui évoluent quand même très régulièrement.
Quand les jeunes travaillent sur le 21, est-ce que ça sert de tremplin pour d'autres emplois, peut-être en milieu ordinaire, ou est-ce que finalement cette équipe est une équipe de long cours qui permet de travailler sur la durée ?
Non, alors l'objectif c'est que ça soit un tremplin. Faut pas juste oublier que ça a démarré pendant le Covid, donc voilà. Ça a mis du coup peut-être un petit frein au démarrage en termes de développement. Pour autant, il y a des jeunes là qui sont dans des perspectives d'après. Parce qu'on a pu leur faire, pu aussi monter en compétence. Ils ont pu aussi se sécuriser, parce que c'est aussi une manière de se dire ça fonctionne. Ils ont pu apprendre aussi les codes. Ils ont pu aller faire des stages dans des établissements du milieu ordinaire. Et il y a des possibilités qui devraient s'ouvrir justement prochainement à certaines personnes. Donc l'objectif quand même in fine, c'est bien une orientation vers le milieu ordinaire.
Très bien, on va continuer à parler trisomie 21 dans un instant, et notamment à travers la journée mondiale qui va être ce samedi. Mais tout de suite, on se fait une petite pause musicale.